Salut à tous, vous écoutez le Radiolab, l'émission de l'atelier Radiolab de la radio PFM 99.9. Aujourd'hui, on a avec Thaïs.
Bonjour.
Adèle.
Bonjour.
Nico.
Salut.
Et Lou à la technique.
Salut.
Comme dans chaque numéro de Radiolab, on va parler de maintes et divers sujets. Aujourd'hui, on va commencer avec Thaïs qui va nous parler de la série Oh, I Met Your Mother.
Oh, I Met Your Mother, en français, Comment j'ai rencontré votre mère, est une série américaine de 208 épisodes. Elle est disponible sur Netflix et Amazon Prime. On suit Ted Mosby, en 2030, qui raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère. On retourne dans le passé en 2005, où Ted apprend que son meilleur ami, Marshall, va se marier avec Lily. C'est alors que Ted va se demander quand lui va se marier. En allant dans son bar habituel, il va faire la rencontre d'une femme nommée Robin Scherbatsky, aidée par un ami, Barney Stinson, en lui donnant un petit coup de pouce pour les présentations. C'est ainsi que commence une longue histoire avec plein de rebondissements. La série est très bien réalisée. Le concept de raconter « Oh, I Met Your Mother » est brillant et très bien exploité, avec chaque saison correspondant à une saison. Bien sûr, pour moi, l'atout de la série est ce fameux Barney Stinson, mais les autres sont tout aussi excellents. Les épisodes sont vraiment sympas, avec un rythme de gag effréné. Et les personnages sont attachants. Je vais vous présenter la musique qui s'intitule « I Will Always Think of You » de la série BoJack Horseman.
I will always think of you. I see your face when each day is through and days go past.
Oh, so fast,
but memories they last.
Summer, winter, year by year,
year by year,
I'll hear this song inside my ear,
trying to restart
and be smart,
but thoughts of you haunt my heart. No, I don't wanna be alone now.
Ooh.
Just biding my time. I need somebody dearly, and darling, so blind.
Spring and autumn, up and down,
up and down,
I keep trying to escape this town,
and I just might,
I'll take flight,
maybe tomorrow, not tonight.
C'était I Will Always Think of You de la série BoJack Horseman, elle aussi disponible sur Netflix. Ensuite, Lou va nous parler de cinéma. Tu vas nous parler de deux films, Les Vacances de Monsieur Hulot et Mon Oncle.
Alors, oui. Alors donc, ce sont deux films de Jacques Tati. Le premier, c'est Les Vacances de Monsieur Hulot et le deuxième, Mon Oncle. Le premier a été réalisé en 1953 et le second en 1958. Les Vacances de Monsieur Hulot est un film où Jacques Tati, alias Monsieur Hulot, part en vacances au volant de sa vieille voiture et enchaîne les gaffes. Il attire l'attention de tout le monde, ses gaffes irritent les vacanciers. La scène que j'ai préférée dans ce film, c'est le moment du requin. Alors je vous laisse regarder le film, je vais pas vous dire ce qui se passe. Le second film, Mon Oncle, toujours avec Monsieur Hulot, se passe dans une maison moderne où vit Gérard, un petit garçon qui adore passer du temps avec son oncle, Monsieur Hulot, le père de Gérard, directeur de l'usine Plastac, engage son beau-frère, Monsieur Hulot, dans son usine et sa femme essaye de marier Monsieur Hulot à sa voisine. C'est encore un film avec plein de gaffes de Monsieur Hulot.
Tu vas nous faire aussi écouter la musique suivante, duo de Philippe Catherine avec Angèle.
Comme un sculpteur qui se retrouve avec une dalle à marbre. Le sculpteur enlève tout ce qui n'est pas la statue. C'est ça, mon pattern.
On a le même
tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On chante la même mélodie.
On chante la même mélodie, mais pas avec les mêmes harmonies.
Je chante à cette chante les mêmes mots,
pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots,
pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, tout à fait les mêmes mots, tout à fait les mêmes mots, les mêmes mots.
Tu aimes faire la musique avec moi?
Ah oui, j'aime faire la musique avec toi. Regarde là-bas, le soleil rougeoir.
Je joue du synthé pour toi.
Je joue de la guitare pour toi.
Je joue du piano pour toi.
De la flûte pour toi.
On joue la même mélodie.
On joue la même mélodie, mais pas avec le même son. Et ça nous rend moins cons. 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 Mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
Et la vie, elle a un tempo. Et ce tempo nous impose un grid de 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 60 minutes par heure et beaucoup de secondes. Et nous, il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on enlève pour arriver à notre propre pattern. Notre pattern qui n'est pas terne, qui n'est jamais terne.
On va poursuivre ensuite avec un sujet un peu plus d'actualité de société où Nico, dans ta chronique aujourd'hui, tu vas nous parler des violences policières et de son traitement par les médias.
Alors les violences policières, c'est un thème dont on parle beaucoup en ce moment dans le sillage des affaires George Floyd aux États-Unis, Adama Traoré en France et puis des manifs un peu partout dans le monde. On en parle beaucoup dans tous les médias, mais ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années. Malgré un nombre important de situations, la plupart des médias, bon là je parle plutôt des médias mainstream, donc ces médias ont très peu relayé ces faits. Et la question que je souhaite poser ici, à vous et aux auditeurs, c'est pourquoi les médias sont si peu enclins à traiter ce genre d'informations. Alors peut-être un premier élément de réponse, c'est que la plupart des cas ces dernières années concernent des jeunes de banlieue, des jeunes de quartier populaire, donc des jeunes hommes pour la plupart racisés, noirs, arabes, gitans, migrants. Et là, on a peut-être déjà un premier élément de réponse, c'est que ces personnes-là sont assez largement marginalisées dans notre société et que les médias mainstream ne s'adressent que très peu à ces publics et ont tendance à penser que leur lectorat, leur audience s'intéresse peu au sort de ces populations. On peut aussi se dire qu'il y a peu de diversité sociale et ethnique au sein des rédactions et donc ces rédactions ont tendance à creuser ce fossé. Un deuxième élément de réponse, c'est une forme de frilosité par rapport à d'éventuelles plaintes, parce qu'on sait que dans ce genre de situation, la police, la préfecture n'hésite pas à dégainer sous forme juridique. Et donc, si un journal accuse des fonctionnaires de violences policières, ça peut mener à des procès qui sont difficiles, hein, parce que très souvent, c'est des situations de parole contre parole, et que là, l'assermentation des fonctionnaires joue beaucoup, et c'est difficile de trouver des preuves. Même souvent les victimes elles-mêmes renoncent à porter plainte parce qu'il y a des intimidations, des conséquences, beaucoup de difficultés à se défendre dans un contexte où beaucoup de non-lieux sont prononcés au final. Et en plus, ça demande beaucoup de travail aux journalistes, hein, c'est de l'enquête quasi policière, et ça demande d'être précis, ça demande du temps, des moyens, toutes ces choses qui manquent cruellement aux rédactions dans ces temps où le journalisme va plus vite, où se pose aussi de manière radicale la question du financement des médias.
Donc tu nous parlais de deux raisons, mais est-ce que tu vois d'autres raisons structurelles à ce silence médiatique sur, à propos des violences policières ?
Bah, les médias mainstream pratiquent quotidiennement l'art du fait divers. C'est quelque chose qui marche bien, ça fait vendre du papier, ça fait de l'audimat, que ce soit Le Parisien, La Voix du Nord. Bon, Libé et Le Monde, c'est un peu différent, mais quand même, la plupart des médias mainstream écrivent et se nourrissent beaucoup du fait divers. Et pour avoir du fait divers, il faut nouer des relations de confiance avec la police. Hein, c'est le rôle notamment des faits diversiers dans les rédactions. Ce qui crée finalement une relation de dépendance. La rédaction a besoin de la police et ça les rend plus prompts à relayer directement les versions officielles. C'est ce que le site Acrimed, Action Critique des Médias, appelle le journalisme de préfecture. Donc, ce qu'ils définissent comme journaliste de préfecture, c'est l'ensemble des réflexes et des pratiques médiatiques qui conduisent à relayer sans aucun recul le discours officiel, celui des autorités, de la police, de la justice, à propos d'opérations de maintien de l'ordre. Alors, si on prend des exemples concrets, je vous parlais d'un cas, c'est celui de Salomé Matisse à Lille-Fif. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Donc, La Voix du Nord, dans son premier article sur cette affaire, a directement relayé la thèse de la police, comme quoi aucune équipe de la BAC n'était sur place au moment des faits, et on a appris seulement quelques semaines plus tard qu'il y avait bien eu une équipe de la BAC sur place, me semble-t-il, et qu'il y avait bien eu une course-poursuite entamée avec ces ados qui ont fini happés par un train sur une voie ferrée. En même temps, la première version de La Voix du Nord, c'est celle qui a façonné finalement le regard des lecteurs et du public sur ce qui s'est passé. De manière générale, les rédactions ont très peur d'une détérioration des rapports avec les autorités, d'autant que les autorités n'hésitent pas à sanctionner les médias qui les attaquent. C'est-à-dire, si un média attaque ou accuse, par exemple, la préfecture ou des polices, eh ben, ces personnes-là ne vont plus donner d'informations à ce média en question.
Du coup, tu parles un peu de blackout médiatique sur la question des violences policières. Mais est-ce que les choses n'ont pas tendance à changer dans ces dernières années avec les Gilets jaunes et plus récemment l'affaire George Floyd ?
Ce qui change, c'est que les violences policières ont touché d'autres couches de la société, les gilets jaunes, mais aussi les manifestants, notamment là sur le mouvement contre la réforme des retraites. Parfois même des journalistes même ou des étudiants au journalisme ont été concernés. Donc, ce à quoi on assiste finalement, c'est une systématisation des violences policières, notamment contre les mouvements sociaux, ce qui fait que les médias n'ont pas pu taire tout ce qui s'est passé. Mais quand même, au moment, par exemple, du mouvement des Gilets jaunes, les médias ont réagi très tardivement. Il y avait déjà beaucoup de blessés, de mutilés avec ces nouvelles armes de la police, hein, les grenades de désencerclement, les LBD, etc. Donc ils ont mis, les médias, plusieurs semaines à réagir, 6, 7, 8. Et notamment, ils ont réagi sous l'influence de la propagation sur Internet des images tournées par les manifestants. Et aussi sous l'influence de quelques journalistes indépendants. On peut citer David Dufresne et sa plateforme Allo Place Beauvau, qui a fait un énorme travail pour recenser les différents cas. Et puis, ces derniers temps, donc après l'émotion suscitée par la mort de George Floyd, il y a eu une sorte de contre-attaque médiatique. D'abord, les médias ont largement relayé les discours étatiques qui nient même l'existence des violences policières. Et ensuite, il y a eu on a entendu beaucoup ce discours sur la mise à distance, c'est-à-dire les États-Unis, c'est pas la France, c'est pas la même chose, c'est pas la même situation, on peut pas comparer les choses pas comparables. En ce moment, on entend aussi énormément sur les différentes antennes des policiers, des syndicats de policiers sur, sur les différentes radios, les différentes télés. Et là, ça pose à nouveau la question de l'accès à l'antenne, parce qu'eux, ils ont un accès vraiment très important, et on a l'impression même un peu illimité aux antennes, alors que les victimes, les familles des victimes, beaucoup moins. Et par-dessus ça, il y a aussi la question de syndicale, parce que souvent, on quand même est donné la parole aux syndicats, alors je ne sais plus s'il est majoritaire, mais il est très important dans la police, c'est Alliance, qui est vraiment à droite de la droite de la droite de l'échelle, enfin du panorama syndical. C'est vraiment un syndicat Alliance qui est proche de l'idéologie du Rassemblement National.
Et pour aller plus loin sur ce sujet, tu nous conseilles un peu de lecture en ligne?
Ben ouais, je suis tombé sur deux articles, donc celui dont je vous ai déjà parlé sur Acrimed, Action des critiques des médias. Ça s'appelle « Médias et violences policières aux sources du journalisme de préfecture ». Et puis aussi un autre média qui pratique la critique des médias, c'est Arrêt sur image, qui ont fait un article intéressant là-dessus. On peut citer aussi sur Arte TV, on peut revoir plusieurs documentaires sur la question des relations houleuses entre citoyens et policiers.
Et les autres, après la chronique de Nico, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire et de la situation en soi? Adèle?
C'est vrai que les informations, elles n'osent pas trop parler des policiers, parce que les policiers sont censés représenter les personnes qui nous protègent, etc. Donc c'est assez difficile de pointer du doigt des personnes qui sont censées nous protéger et qui ont quand même fait des choses graves finalement. Donc c'est vrai que c'est pas facile.
Peut-être Lou, à la technique, t'as peut-être quelque chose à dire. Bon, et puis moi, j'ai toujours quelque chose à dire, je pense. Hein. Non, mais c'est sûr, c'est des personnes, la police, c'est des personnes censées nous protéger. Et qu'au final, on voit qu'ils ont dézingué des centaines de personnes. C'est sûr qu'on peut se poser la question, est-ce qu'ils nous protègent encore? Mais il ne faut pas non plus faire des généralités. On ne faut pas non plus dire « all cops are bastards », comme ça revient souvent. Je suis sûr et certain qu'il y a des bons gars dans la police, c'est sûr et certain. Mais faut pas se laisser berner par une minorité qui n'exerce pas leur métier de la bonne façon. Et tu vas nous faire écouter quelle musique, Nico?
En tout cas, le début de la chanson, on parle un petit peu de ça, des rapports avec la police. C'est un rappeur qui s'appelle Rossé, et j'ai choisi pour vous un titre qui s'appelle « Le cartable renversé ».
Après-midi 16h, individu mineur, parti en extérieur, activité rêveur, sous l'œil inquisiteur, d'un soleil en hauteur, la silhouette du mineur et sa démarche d'empereur. Une patrouille de contrôle, conversant à l'arrêt, pose regard acéré sur l'enfant aux aguets. Ce dernier ne s'affole, car il sait que c'est pas vrai, que dans sa métropole, le raton est frappé. Il avance cœur léger, le sourire qui débute, mais se fera heurter et confirmer sa chute. L'agent pourtant adulte s'exécute en insulte dans un rapport injuste de violence et culbute. Jusqu'à ce jour, la voix de sa mère l'avait bercée sur les bienfaits d'être droit envers l'assermenté. Loin des petits cons d'en bas que les emmerdes ont cerné. En réponse, le trauma, son cartable renversé. Renversé. La cloche sonne et ça rentre dans un chahut pesant. Les vacances dans le ventre et le bahut présent. Professeur virulent, profession virulente, frustration titubante, rancœur comme stimulant. Élève à l'âge fragile et au discours idiot. Professeur malhabile, suffoquant aussitôt. Qui choisiront comme cible pour devenir radicaux. Momo parent docile du négro au bicro. Coiffure égalisée, au peigne indispensable. Par une mère désireuse de l'offrir présentable. Mais une maîtresse hideuse sortira de son calme pour tirer le cheveu précédé d'une mentale. Jusqu'à ce jour, la voix de sa mère l'avait bercée sur les bienfaits d'être droit envers l'autorité. Loin des petits cons d'en bas que les emmerdes ont cerné. En réponse, le trauma à son cartable renversé. Renversé. Chaussures, jupes longues, tailleur, d'un sérieux ravageur. Bonne figure et à l'heure, face au petit manager qui savoure la saveur des diplômes de valeur. L'église dans parapheur d'un air approbateur. Mais le lendemain tôt, à l'honneur d'un coup de fil, c'est le refus du boulot par une voix insipide. Conseil tape dans le dos comme à des billes candides. C'est un choix un peu haut, vous êtes trop féminine. De sa lucidité, très vite elle en conclut que s'il y a exclusion, malgré diplôme accru, l'âge n'est plus une donnée, capacité non plus. Elle est corps d'exception, corps offert aux abus. Jusqu'à ce jour la voix, sa mère l'avait bercée sur les bienfaits d'être droite envers cette société. Loin des petits cons d'en bas que les emmerdes ont cerné. En réponse le trauma son sévère envers.
Rossé, cartable renversé. Ensuite, on va passer à Adèle, notre dernière chroniqueuse. Tu vas nous parler du féminisme.
C'est ça. Donc, en ce moment, actuellement, le féminisme, le mouvement féministe MeToo relance le sujet des abus sexuels et des inégalités hommes-femmes. Donc, comment expliquer cela ? D'abord parce qu'il existe des différences dans les mentalités, par le fait que dès notre enfance, nous sommes en quelque sorte rangés dans des cases. Dès la naissance, les parents vont arranger la chambre du bébé de différentes manières, selon le sexe de l'enfant, et le jeu qu'on propose aux enfants sont différents selon qu'ils soient une fille ou un garçon. Finalement, les filles reçoivent des cuisines, des poupées, etc. Et donc ces jeux leur apprennent déjà à savoir se comporter pour gérer le foyer et s'occuper des enfants. En plus, les mentalités d'autrefois se transmettent de génération en génération. Donc certaines personnes continuent de suivre cette voie. Cependant, de moins en moins de femmes sont au foyer. Donc nous allons remonter au siècle dernier, afin de voir un petit peu l'évolution de la situation de la femme en France. Donc, avant la loi de 1975, les femmes devaient demander l'accord de leur mari pour pouvoir travailler. Donc, à cette époque, la moitié des femmes âgées de 20 à 59 ans ne travaillaient pas. En 1975, là encore, la loi pour le droit à l'avortement est promulguée par Simone Veil. Donc, la condition des femmes évolue alors. Et après cela, en 1976, la mixité devient obligatoire pour tous les établissements scolaires. Donc à ce moment-là, les filles elles font la même chose que les garçons à l'école et leur éducation devient la même. Donc à la même époque, les femmes étaient dominées par le patriarcat.
Tu pourrais nous définir ce qu'est le patriarcat ?
Oui, donc le patriarcat, c'est une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention et l'autorité par les hommes. Donc, dans cette structure sociale, les hommes exploitent les femmes pour le travail domestique, s'occupent des enfants, etc. Ils associent ces tâches comme des tâches féminines, alors que finalement, les hommes également peuvent faire ces tâches. C'est pas réservé qu'aux femmes. Et les femmes, à cette époque, sont plutôt dites comme des femmes qui servent seulement à donner la vie, finalement, et puis surtout pour faire des garçons. Donc, par exemple, en Chine, en 1950, il y avait la loi de l'enfant unique. Et à ce moment-là, quand l'enfant était une fille, ça arrivait parfois que la fille soit tuée dès la naissance pour pouvoir avoir un garçon. En vrai, c'était plus simple d'avoir un garçon pour pouvoir passer de génération en génération le nom de famille, etc. Alors qu'avoir une fille, c'était plus un fardeau, on va dire, comme il fallait donner une dot. Bon, ça arrive plutôt aussi en Inde, de donner la dot pour la fille. Donc là encore, fallait sortir de l'argent, donc c'était compliqué pour les familles pauvres. Pour revenir à notre chronologie, en 1991, les femmes au foyer étaient encore au nombre de 3,5 millions. En 2011, elles n'étaient plus que 2,1 millions sur un total de 15 millions. Donc en France, les droits des femmes ont énormément évolué. Cependant, les abus sexuels continuent encore. Donc, d'après le journal Le Monde, une enquête menée, publiée en 2015 par le Défenseur des droits, une femme sur cinq a été confrontée à du harcèlement sexuel au travail. et 20% des femmes et des hommes interrogés ont aussi déclaré connaître au moins une personne ayant été victime du harcèlement sexuel dans son travail. Donc une proportion qui n'a pas diminué depuis 1991, date à laquelle on recensait 19% de victimes de telles pratiques. Pour conclure, on peut dire que la période du confinement n'a pas vraiment arrangé les choses puisque le nombre de violences conjugales a augmenté. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, Marlène Schiappa, précise qu'il y a eu 5 fois plus de signalements de violences conjugales qu'habituellement.
Du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, le mouvement MeToo et tout ce qui est abus sexuels, physiques et ou moraux. En fait, je suis du coup actif dans le monde du catch et depuis quelques jours. Il y a un mouvement qui est né, ça s'appelle Speaking Out, et en fait, ça recense toutes les abus sexuels, physiques et ou moraux, par des hommes et des femmes, et ça se déchaîne à des noms qui tombent tout le temps. Et même des noms, des gars qu'on pensait respecter, être des hommes respectables, qui s'avèrent juste être des prédateurs sexuels. Et le monde du catch, hein, aussi un mouvement assez porté sur le patriarcat, c'est ça a toujours été les mecs en avant et les femmes, les potiches, quoi, celles qu'on exhibe pour exciter le spectateur mâle. Donc depuis quelques années déjà, ça change. Mais on vit enfin, le catch vit maintenant son mouvement un peu MeToo. Et c'est une très bonne chose au prix que ça va nous faire un bon gros ménage. Et c'est tant mieux parce que c'est vraiment mieux gangréné. Tout ce que le mouvement féministe, à part toi, l'extrémisme, vraiment le vrai mouvement féministe, je fais que le saluer. Et les hommes aussi, on peut se revendiquer comme féministes. Et ensuite, on va écouter la musique sélectionnée par Adèle, c'est Starlight de Muse.
Taking me far away, far away from them.
c'était Radiolab, proposé par l'atelier Radiolab de Radio PFM 99.9. Radiolab, c'est un atelier destiné aux jeunes de la Rajoie qui souhaitent découvrir le monde du journalisme, et c'est tous les samedis de 14h à 16h. À la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Et on se quitte sur Into the Fire de Dokken. À la prochaine.
Your eyes, they beckon me. Your lips, they speak lies and misery.
Into the fire!